I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Binge Audio, fabricant de podcasts depuis 2015.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Comme vous le savez, nous parlons ici sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs. Et aujourd'hui, on va vous parler des blancs et des blanches.
Alors dans Kif Taras aujourd'hui, nous nous intéressons aux implications culturelles des processus de racialisation et de colonialité du point de vue des personnes perçues comme blanches. Quelles conséquences la blanchité, c'est-à-dire l'appartenance réelle ou supposée à la catégorie raciale des personnes blanches, a sur leur manière d'être, sur la culture, c'est-à-dire sur l'ensemble des pratiques héritées, transmises et transformées au sein d'une communauté et par cette communauté en famille ou dans les lieux publics. Y a-t-il une culture blanche ? Quelle forme prendrait-elle ? Et faut-il s'en détacher ? Ces questions font partie de celles que nous soulèverons dans cet épisode.
Et pour en parler, nous avons invité Jérémy Piola, qui va nous faire part de son expertise sur la question. Bonjour Jérémy.
Salut. Bonjour, bonjour Grace, bonjour Rokaya.
Merci d'être avec nous Jérémy. Tu es docteur en sciences politiques et sociales, anthropologue. Tu enseignes à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique. Ancien danseur professionnel et l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Portrait du colonialiste, qui a été réédité en octobre aux éditions Libres, avec une préface signée par une personne que l'on connaît très bien ici, puisqu'il s'agit de Grace Lee.
Oui.
Oui, une très belle préface.
Merci beaucoup, j'en profite comme tu es là. Ouais, pour te remercier de m'avoir fait l'honneur de l'écrire. Nous nous sommes rencontrés tous les trois lors d'un événement à Grenoble en juin dernier. Ça s'appelait le Mois des Coloniales, dont nous saluons les organisateurs. Merci de nous avoir mis en lien. Et dans Kif Taras, on a un rituel, c'est qu'on demande à la personne qui est assise avec nous si il ou elle se situe sur le plan racial. Rokaya est perçue comme une femme noire, moi comme une femme asiatique. Est-ce que toi, Jérémy, tu t'es posé la question et si oui, comment ?
La réponse pourrait être très longue et très complexe, mais je suis pas dans un moment de mon trajet où je vais m'étaler là-dessus. Je vais dire que je suis blanc. Je suis blanc de nom, par exemple. Jérémy Piola, c'est un nom blanc. Donc, j'ai certains privilèges de blanc. Effectivement, comme avait dit Éric Fassin qui était chez vous, je considère ça plus comme une propriété qu'une identité. Mais donc, d'un côté, je suis blanc. De l'autre, je considère pas, et je suis obligé de ne pas considérer que toute ma culture est eurocentrée. Voilà, je suis d'origine méditerranéenne, du sud de la France, vers l'Italie. Ça n'empêche pas d'être blanc, hein. Mais c'est pas exactement la même manière d'être blanc que quand on est du nord de la France ou que quand on est, je ne sais pas, d'Auvergne, etc. Avec la Méditerranée, on a certains points en commun avec d'autres continents où les personnes qui y habitent ne sont pas considérées comme blanches. Donc voilà, je me considère donc racialement, par assignation, blanc, culturellement méditerranéen, en gros, pour faire simple.
Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as découvert justement que tu avais cette assignation raciale de blanc ?
Alors ça, là, tu me poses une question qui risque de nous emmener très loin. Quand j'ai découvert mon assignation raciale de blanc, c'est il y a assez peu de temps. Parce que petit, on ne m'a pas considéré comme un blanc. À l'école, où mes camarades blancs, mes congénères présupposés blancs, me considéraient asiatique ou arabe.
Voilà. Ah ouais.
Et ça a été comme ça jusqu'à l'âge de 45 ans à peu près, où je crois que c'était en 2006, j'ai dû faire 10 allers-retours Bruxelles-Paris parce que je travaillais sur un projet musical, et j'étais arrêté systématiquement, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, par la police, et fouillé à chaque fois que j'arrivais. Donc, Et avec un étonnement, ah, vous êtes français, quand on prenait ma carte d'identité, et un passage du tutoiement au vouvoiement à partir du moment donné où il y avait mon nom. Mais petit, effectivement, je me suis demandé qu'est-ce que j'étais, puisque alors il y a, paraît-il, une vague origine africaine dans ma famille, mais on n'est pas sûr sur la question, donc je n'en suis pas sûr moi-même. Mais ça n'expliquerait pas, ça ne rend pas forcément explicable pourquoi est-ce qu'il y a eu cette assignation en fait à une communauté à laquelle apparemment je n'appartiens pas, puisque je ne suis pas arabe et je ne suis pas asiatique. Voilà.
Il est un peu ambigu en même temps, je trouve.
Ça bien, commence bien tout ça.
Bien malgré moi. Mais c'est une vraie question intéressante.
Ouais.
Parce que je peux pas dire que j'ai souffert du racisme. Je l'ai rencontré. C'est-à-dire que j'ai vu en tout cas que le mur de la blanchité est très épais. Et qu'il suffit que par un léger trait physique, ou plus ou moins léger selon les points de vue, on se détache de la norme blanche physique pour ne pas être accepté par sa communauté en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, j'ai commencé à me construire finalement en étant content de penser, peut-être je me trompe, mais que je ne ressemblais pas exactement forcément à tous les blancs et que j'avais pas forcément la même tête que Guillaume Durand ou le commissaire Broussard. Voilà.
Et ben justement, c'est une exploration qui est aussi celle de ton livre qui s'appelle Portrait du colonialiste, donc oui. Qui est inspiré du. Enfin, en tout cas, c'est une référence et un hommage, je pense, au travail de Albert Memmi.
Et de Aimé Césaire aussi, Discours sur le colonialisme.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, c'est vraiment une fusion de portrait du colonisé et Discours sur le colonialisme.
Oui, exactement.
Donc, des textes, parce que souvent on dit que les questions raciales n'ont pas d'ancrage français, que ce sont des importations américaines. Tu prouves évidemment qu'il y a une réflexion très ancienne sur les questions raciales depuis la France et depuis ses périphéries colonisées. Et donc, dans ton livre, adresses un point de vue terminologique qui part du constat de départ que le monde occidental a vu disparaître des pratiques culturelles populaires, notamment les chants et les danses traditionnelles. Et tu parles non pas de blancs et de non-blancs, mais d'occidentaux et d'extra-occidentaux.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix de vocabulaire?
Parce que blanc, en fait, blanc et racisé, ou blanc ou noir, arabe, asiatique, nous renvoie, évidemment, ça peut nous renvoyer surtout asiatique, arabe, même noir, parce que c'est comme dit le sociologue anglais Paul Gilroy, autant il refuse de l'héritage du terme nègre, autant il veut garder le terme noir, qui pour lui désigne une continuité, une parenté, une fraternité entre toutes les femmes et les hommes qui sont passés par l'Afrique, qui en sont venus, qui en ont été déportés, etc. Et la mémoire et le maintien debout d'une mémoire qu'on transforme, etc. Donc ça, c'est aussi au niveau culturel, mais on va dire que en général, quand on dit blanc, racisé, on désigne une catégorie raciale qui implique bien sûr une culture. Le fait d'être blanc va déterminer une partie de la culture d'un blanc. Va déterminer un certain nombre d'habitudes, de réflexes conditionnés. Je donne un exemple très simple dans la préface qui est un blanc ne sera pas surpris de trouver une nounou racisée, il sera beaucoup plus surpris de trouver une nounou blanche ou bien de se retrouver lui en train de travailler comme nounou auprès d'une personne racisée. Mais ça peut aller plus loin. Récemment, j'ai vu une revue d'une association en France qui voulait travailler contre le racisme et qui voulait sensibiliser les gens à travers des clichés et qui manipulait toujours des clichés terribles du style un tel est ivoirienne, elle arrive en retard au travail, que peut-on faire, etc. C'est-à-dire que c'était des gens qui travaillaient pour des blancs avec un imaginaire blanc et qui ne savaient pas qu'ils allaient excessivement blessés en manipulant des exemples comme ça. Donc ça, c'est la race sociale. Et elle peut déterminer une partie de la culture. Mais après, la culture, c'est autre chose. Et ça, c'est vraiment quelqu'un qui était passé dans votre émission, notamment, qui le signalait très bien, qui s'appelait Didi Bintou.
C'est là. Voilà. Tu l'as cité d'ailleurs dans ton livre.
Je le cite dans mon livre parce qu'elle avait très bien résumé les choses. Elle avait dit je suis par assignation une femme noire ici en France, mais c'est pas mon identité. Mon identité, c'est d'être, entre autres, je crois que c'était
Soninke,
voilà. Et c'est ma culture, mon identité. Et donc, quand je dis extra-occidentaux ou occidentaux, je me réfère à une culture. Alors, les occidentaux sont des personnes qui sont souvent occidentales ou ancrées, c'est-à-dire qui ont une culture qui n'est que occidentale, ou en tout cas qui s'imaginent comme n'étant que occidentale, ce qui est faux, parce qu'il y a dans cette culture occidentale des tas d'apports qui ne sont absolument pas occidentaux. C'est ce que rappelle aussi ce sociologue Paul Gilroy. Voilà, en tout cas, le terme occidental renvoie plus à la culture et le terme extra-occidental aussi. C'est-à-dire qu'on peut être blanc et de culture qui n'est, ou avoir une culture qui n'est pas qu'une culture blanche, ou même qui est assez peu une culture blanche. On peut imaginer un blanc converti à l'islam, un blanc qui vient des quartiers, un blanc qui, pour X raisons et n'importe un parcours qu'on pourrait imaginer, bah finalement, n'est quasiment plus eurocentré, il est quand même blanc, racialement. Il continue à jouir d'un certain nombre de privilèges qui ne sont pas partagés pour l'instant. Voilà la différence.
Ouais. Ouais, moi, je trouve que cette, justement, la ligne que tu traces entre la question de la race et la question de la culture est vraiment hyper importante, surtout aujourd'hui, on a tendance à utiliser la culture comme un ressort raciste. Il y a une question de confusion. Et dans le livre, je trouve que c'est assez parlant l'exemple que tu utilises entre les termes guer et Gwari, alors je ne sais pas si je l'ai dit
Gwari
bien,
parce...
ouais, pardon, voilà, merci, que tu as rencontré au cours de tes recherches pendant 10 ans au sein des communautés franco-algériennes et belgo-marocaines.
Ouais.
Et c'est notamment Anissa, une plasticienne que tu cites, et qui te dit que blanc, le mot blanc, c'est pour désigner des privilèges structurels liés à la race.
Ouais.
Et que guer, ça désigne la manière d'être de Français ou d'Européens, et surtout des manquements culturels. Par exemple, les valeurs familiales, le respect dû aux aînés, le rapport à l'argent, le rapport à la nature dont ils ne verraient pas la dimension sacrée, le rapport à la religion. Et c'est assez édifiant comment elle le place, parce que c'est vrai qu'on a tous pensé un jour, moi par exemple, par rapport à l'argent, quand je déjeune ou je dîne avec des gens qui sont par exemple asiatiques, comme j'ai vu mes parents faire, ils se battaient pour payer la note. Enfin, c'était vraiment, c'était comme une coutume. C'est-à-dire, même si on savait que c'était peut-être toujours les mêmes qui payaient, ou enfin, on faisait quand même semblant d'essayer de payer, quoi.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai
payer pour tout le monde, ouais.
Payer pour tout le monde, et à charge de revanche, etc. Alors que le 50-50, enfin, maintenant je le fais, bien sûr, quoi, mais. Je suis toujours assez mal à l'aise en me disant comment est-ce que je vais gérer l'addition. C'est un truc que je me pose même en déjeuner avec des gens professionnels.
En tout cas, merci d'avoir relevé ça, parce que je trouve que ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que c'est par exemple les blancs ont beaucoup objectivé les autres, c'est-à-dire ils se sont posés comme ceux qui pouvaient les comprendre, les analyser, en faire des objets d'étude en fait. Et là, tout à coup, ces expressions, justement, le fait qu'on regarde comment, par exemple, des Maghrébins, on va dire, même si le terme est des Africains du Nord, nomment les blancs pour désigner leur culture, donc Gaouri au singulier, Gouer au pluriel, Gaouria si c'est une femme, bien ça objective les blancs. C'est-à-dire, ça permet de voir que eux aussi peuvent être regardés, nommés, etc., etc. Et donc c'est en tout cas un moment important. Et ça existe en plus pas que chez les Maghrébins. Ça existe aussi évidemment chez des Africains subsahariens ou descendants d'Africains subsahariens. Ça existera forcément aussi chez les Asiatiques. Je ne sais pas quels seront toujours les termes, mais toujours est-il que par exemple il y a des choses qui reviennent. Une chose que j'ai fait souvent dans les travaux de recherche que j'ai fait. Donc dans mes travaux de recherche, une des méthodologies que j'utilise, c'est des ateliers d'écriture que je fais avec des personnes migrantes ou descendantes de migrants rencontrées sur mes terrains. Bah, par exemple, j'ai entendu des tas de mots très intéressants, notamment une jeune personne guinéenne qui était un homme donc migrant de primo-arrivant, disait par exemple « les blancs dansent avec leurs cheveux ». Et je lui disais « ça veut dire quoi danser avec leurs cheveux ?» Il disait « ça veut dire ils dansent en bougeant que la tête ». Et à ce moment-là, une autre personne aussi guinéenne avait dit « c'est pas exactement ça en fait, ils bougent que la tête ou que les pieds, mais ils bougent jamais les choses ensemble. » Et en fait, il n'y a pas de lien. Donc ce sont des termes et des regards voilà, qui nous permettent de comprendre certains manquements ou certaines choses qui peuvent être perçues par les autres et que nous ne percevons pas nous-mêmes, surtout à travers l'immense ego occidental qui vient compenser peut-être des grands vides. Et après, par exemple, il y a d'autres phrases aussi qui ont été prononcées assez radicales dans leur analyse, mais très belles et très ouvertes à la rencontre et même à la fraternité. Ce même jeune homme guinéen disait « c'est chez nous, en Guinée et chez... » Enfin, il disait « chez nous, chez les Noirs et chez les Arabes », c'est comme ça qu'il parlait, que les femmes ont le plus de droits. Il disait parce que quand elles ont un enfant, il y a toute la famille qui est autour d'elles pour s'en occuper. Elles ont le droit de s'occuper de leur enfant au moins la première année, deuxième année, troisième année. Ici, le fait que les femmes blanches soient obligées ou même aient pris l'habitude d'avoir envie de mettre leur enfant à la crèche à 3 mois, c'est un problème. Ça fabrique des personnes qui sont malades socialement. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui vient avec un ancrage culturel fort, qui n'est pas un réflexe conditionné, c'est pas la culture au sens inconscient. Il serait la marionnette de sa culture comme un canard est déterminé à plonger sous l'eau. Et encore, je sais pas bien de prendre des canards, parce que je pense qu'il y a plus d'intelligence dans les canards que ce qu'on veut en dire en général. Mais cette culture, il la pose comme un savoir, comme étant un ensemble de pratiques culturelles reliées à des conceptions du monde, à des manières de percevoir le monde, ce que doit être la vie, ce que sont les besoins d'un enfant qui arrive, voilà, qui doit commencer par se socialiser avec les personnes qui sont le plus proches et, si c'est possible, celle qui l'a porté et celui qui n'était pas très loin.
Mais ce qui est intéressant, en fait, dans ce que tu dis, c'est que, sans trancher sur ce débat-là, parce qu'effectivement, il y a des arguments de part et d'autre, c'est de dire que, finalement, la hiérarchisation, en fait, implicite qui est opérée dans le regard occidental vis-à-vis des autres cultures, en fait, elle ne prévaut pas sur le regard que ces cultures portent sur elles-mêmes et que, d'une certaine manière, en tout cas, moi, sur cette question-là du travail, enfin, de l'émancipation par le travail, évidemment, elle m'interroge parce que d'une part, les femmes noires ont été contraintes de travailler dans le cadre de l'esclavage, donc la question du droit d'accès au travail pour les femmes noires issues de l'esclavage, elle s'est pas vraiment posée puisque le travail leur a été imposé.
Ouais.
Et puis, l'autre question, c'est qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans un monde qui est capitaliste? Et ça, c'est ce que dit souvent Aminata Traoré, l'ancienne ministre de la Culture du Mali, qui dit que, d'une certaine manière, les Occidentaux veulent imposer aux Africaines le travail, mais en fait une émancipation qui est une nouvelle forme d'oppression. Et que, du coup, on peut s'interroger. C'est-à-dire que, oui, que les femmes puissent gagner, être autonomes financièrement, c'est important, mais est-ce que l'autonomie passe nécessairement par la soumission à un régime qui est déjà oppressif pour les hommes, quoi? Donc ça, je trouve que c'est très intéressant.
Et sur la question de la parentalité et le fait que... en fait, moi, je trouve que l'exemple que tu apportes là, et dans tout le livre, la démarche est de se décentrer, en fait.
Oui,
donc, en fait,
oui.
On se décentre du fait que pour une femme, une mère qui vient d'avoir un enfant, la seule voie possible, c'est de mettre son enfant à la crèche. Évidemment que c'est une possibilité. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, c'est même une chance d'avoir une place à la crèche, hein, parce que ça manque et que c'est des conditions vraiment. Oui. Mais aussi, ce n'est pas la seule façon. Et les femmes qui choisissent de rester près de leur enfant pendant 2-3 ans plus, même si elles le souhaitent, elles ne doivent pas subir l'opprobre ou penser qu'elles ont mis de côté leur vie pour sacrifier, on va dire, pour leur enfant. C'est-à-dire qu'en fait, on se décentre d'un choix qui serait le meilleur choix et qu'on se dit, mais en fait, on est libre de faire ce qu'on veut et ça apporte beaucoup plus de richesse dans nos vies que de se dire, voilà, c'est comme ça que je vais faire parce que c'est comme ça que la société valorise ce qu'il y a à faire.
Mais tout à fait. Et par exemple, plusieurs femmes migrantes, qui sont des femmes d'ailleurs, c'est de par les propos qui émergent d'elles, etc. Femmes migrantes qui reviennent, et d'hommes aussi, qui reviennent sur cette question de archétyper, de s'occuper en Occident de l'enfant. J'ai une parole d'un enfant turc, par exemple, qui venait d'arriver quand il avait 13 ans, et je lui explique que les enfants allaient à l'école, parce qu'il parlait pas très bien français encore à ce moment-là, quand ils avaient 3 mois, il m'a dit, mais comment l'enfant sait qui est sa maman, alors après? Donc ça va assez loin, hein, en termes d'analyse, ça commence tôt. Mais après, par exemple, les femmes migrantes qui avaient pointé ça, et à travers des phrases très dures des fois, puisqu'une avait écrit un texte en disant, elle fait parler à un nouveau-né, elle dit, papa, maman, si vous savez comme je souffre d'aller à la crèche, mais un jour, ce sera aussi à votre tour de souffrir quand ce sera votre moment de venir à la maison de repos. Elle faisait pas ça pour culpabiliser les parents ou les attaquer. C'est quelqu'un qui prenait la parole dans des débats. Elle disait, c'est pas les parents que j'attaque, c'est le système. Pourquoi système? Même si elle le disait, elle disait système. Mais il y a plein de choses qui sont sous-entendues là-dessus. C'est comment ça se fait qu'effectivement, spontanément, on va vers ça. Et ce qui est intéressant, c'est que là, la présence de ces paroles nous permet d'interroger nos manières de faire spontanées, qui n'ont rien de spontané, qui sont construites, qui ont une histoire, et qui est une histoire assez compliquée. Voilà.
À propos d'histoire, justement, sur le choix de la couverture de cette réédition, tu as mis Jake Angeli, qui est un Américain, donc qui, par rapport à ton texte, en fait, illustre ce que tu appelles comme l'imaginaire blanc. Donc lui, c'est un militant de la mouvance QAnon aux États-Unis. Il s'est illustré lors de la prise du Capitole, la tentative d'invasion du Capitole et de coup d'État du 6 janvier 2021, au moment de l'investiture, enfin, des quelques jours avant l'investiture du nouveau président Joe Biden. Il est devenu le symbole de la sauvagerie stéréotypée parce que c'est un homme qui est apparu avec des parures en lien avec des références mêlées de natifs américains, des vikings, qui étaient à la fois ouvertement racistes, il était torse nu avec un drapeau américain peint sur le visage.
Ouais.
C'était un mélange de symboles qui, pour toi, en fait, signifie, vraiment illustre la sauvagerie moderne.
Oui, il illustre ce que j'appellerais la sauvagerie eurocentrée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une telle déperdition des cultures populaires complexes qu'on a, qui sont liées à nos manières de danser, à nos manières de chanter. Enfin, dans le livre, j'ouvre avec cette histoire de danse des canards et de Sénégalais qui disent que les Français qui dansent chez eux sans se préparer, donc sur le mbalar, par exemple, Sénégalais dansent comme des singes. C'est simplement parce qu'ils se rendent compte que les Français dansent sans avoir appris et identifient la musique sénégalaise à une musique de spontanée, primitive. Et donc, effectivement, ils se mettent à danser pour ce qui leur semble, en tout cas, de la manière qui leur semble la plus appropriée, c'est-à-dire à la manière d'un singe. À travers tout ça, c'est ce qui m'étonne. Mon livre, il part d'un constat, en fait. Il y a une genèse à tout ça. Ce serait très long de raconter dans le détail. Mais à un moment donné de mon existence, à travers différentes expériences, je constate que partout où je rencontre des personnes, je voyage pas forcément énormément, mais je rencontre des jeunes capoeiristes qui viennent des favelas, avec qui on a un échange avec mon groupe de danse et eux. Je rencontre des musiciens malgaches, Maraléo, c'est un grand groupe malgache, qui à l'époque, il y en a un qui travaille avec les paysans sans terre et qui me parle d'un problème qu'a un ami à lui qui est sorcier marxiste. Donc il est censé être par descendance, il doit être sorcier, mais il est marxiste, il n'arrive pas à combiner les deux, il se demande. Donc on est quand même dans des questionnements excessivement complexes, larges, et très souples, et très apporteurs de souffle, quoi. Et donc je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ici pour que, ici, les enfants, au lieu d'apprendre des chansons hyper complexes, comme les Peuls, par exemple, au Sénégal, ils vont apprendre Babamal à un moment donné, ou, j'ai dit dans le livre, les jeunes Kabyles chantent Matoublounès, qui sont des mélodies et des rythmiques très compliqué. Pourquoi ici on apprend juste Au clair de la lune, mon ami Pierrot, qui, je veux dire, d'un fait point dodo. De vue, voilà, fait dodo cola, mon petit frère, et papa fait du chocolat. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement ce soit si pauvre ce qui est donné à nos enfants à chanter? Or, ce chant et cette richesse en termes mélodiques, rythmiques. Et en termes aussi de virtuosité corporelle, parce que c'est complexe de danser, de savoir danser le mbalar quand on a 5 ans, 6 ans, hein, ce qui est une danse sénégalaise moderne, donc à la fois ancrée traditionnellement et puis en perpétuel devenir, hein, comme la plupart des traditions d'ailleurs, avant d'être folklorisée. Savoir danser le mbalar, ça détermine une certaine intellectualité qu'on ne peut pas avoir si on n'a pas appris quelque chose d'aussi complexe, par exemple. Ça, j'en suis sûr.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans Le cœur sur la table.
En plus, sur la question spécifique de la danse, comme tu as été danseur professionnel, tu peux vraiment nous en parler. Moi, je sais que, enfin, en France, la danse, c'est devenu quelque chose, c'est devenu une culture d'État. C'est-à-dire que oui. On peut pas apprendre la danse ailleurs que dans un cours. C'est-à-dire que si tu fais de la danse quand t'es petit, t'es enfant, tu fais de la danse classique, tu fais de la danse moderne, mais tu fais de la danse dans un endroit où il y a, enfin, des gens pour t'enseigner. Eux-mêmes ont des diplômes, donc tout est sanctionné par des titres.
Oui.
Et il y a plus, tu nous parles ce manque de pratique culturelle populaire. Et c'est vrai que c'est impossible. Et d'ailleurs, on le voit après, c'est-à-dire que les danseurs professionnels, c'est le moderne, le contemporain, etc.
Oui.
Et il y a eu une lutte par rapport aux danseurs qu'on appelle les danses urbaines, hip-hop, enfin toutes les danses hip-hop. Et aujourd'hui, on le voit aussi avec ce qu'on appelle la K-pop, mais c'est pas du tout la K-pop, mais c'est les danses, oui, qui sont C'est des nouveautés qui viennent de la rue. Il y a toujours une grande fascination pour la rue, mais... Mais on ne les accepte pas dans notre cercle. Et vraiment, sur la question de la danse, c'est ça. C'est-à-dire que si tu me demandes de danser, c'est exactement ce que tu me dis dans ton livre. Tu dis qu'il y a une jeune femme qui, d'origine italienne qui dit à sa mère « Mais moi, pourquoi est-ce qu'on n'invite jamais des gens à la maison et on leur montre notre culture, on ne danse pas, on ne chante pas ?» Comme elle a pu être invitée à chez des gens chez qui elle avait vu ça. Et elle s'est dit « Mais moi, il me manque un truc. » Et toi, ton analyse, c'est d'où, comment, à quel moment est-ce que c'est parti ça ?
Alors la réponse, elle est très longue de à quel moment c'est parti, mais en tout cas, la chose la plus importante, c'est de la poser. C'est-à-dire quel ravage il y a eu ici ? Qu'est-ce qu'ont été les Européens de l'Ouest avant d'être des blancs ? C'est ça la question pour moi. Et qu'est-ce qu'ils deviendront après la blanchité, si on sort de la blanchité ? Ça, c'est la question vraiment centrale de mon livre. Et donc, ce que je me demande, c'est... Je pars du principe qu'il y a eu un temps où les danses de pays, des différents pays qui constituaient la France, hein, donc je dis bien pays, je dis pas nation, et je dis pas région non plus, parce que c'est le terme qui veut dire pays, en fait, une fois que l'État y a mis son sceau. C'est-à-dire, c'est dit, voilà, tout ça, c'est à moi. En tout cas, c'est moi qui contrôle quelle langue on parle, etc. Je pense que, c'est une hypothèse, dans beaucoup de danses régionales qui sont super folklorisées maintenant, il y a eu une pulsion rythmique comme on trouve dans le Mbalar, dans le Chaabi, en Algérie, etc. Et que ça a disparu au fil d'une histoire. Parce que ce qui est surprenant dans la plupart des danses identifiées comme occidentales, alors ça c'est un invariant, c'est un scoop, parce que je ne l'écrirai noir sur blanc que dans un prochain livre, la spécificité des danses occidentales, c'est qu'on ne bouge pas les hanches. Et quand on ne bouge pas les hanches, on ne fait pas circuler l'énergie. Et la spécificité de la grande majorité des danses extra-occidentales, qu'elles soient roms d'Europe de l'Est, donc vous voyez, je ne mets pas l'Europe de l'Est dans l'Occident, par exemple, en tout cas du point de vue de la danse. De la couleur, je le mettrai, parce qu'un Polonais ou un Macédonien peut devenir blanc, si tant est qu'il n'est pas trop mat au départ. Mais aussi bien chez les roms que chez les différentes populations liées, on va dire, à l'Orient, voilà, les Orients, on va dire, évidemment, dans les différentes Afriques aussi, on bouge, on danse avec les hanches. Et les hanches permettent de faire circuler l'énergie, par exemple, si on frappe du pied, jusqu'à la tête. Voilà. Alors des fois, il y a des populations, des communautés qui ne dansent pas trop avec les hanches, mais elles vont compenser par l'utilisation de plein de détails, des doigts, des yeux, etc. Et dans les danses occidentales, il n'y a pas ça. D'ailleurs, dans les films, quand une danse occidentale est représentée, si on prend un film, je vais dire n'importe quoi, peut-être je me trompe, hein, mais je crois que c'est... Comment il s'appelle celui en Écosse, là, où Mel Gibson veut l'indépendance de l'Écosse ?
Braveheart.
Braveheart. dans Braveheart, à un moment donné, ils dansent, et quand ils dansent, comment ils sont ? Ils sont raides comme des balais tous les deux, hommes et femmes, ils se tournent autour. Et c'est des danses de cours, en fait, qu'ils sont en train de faire. C'est pas des danses de résistants à une occupation royaliste, en l'occurrence anglaise. Et donc, on a vraiment cette image-là qu'on ne danse pas avec les hanches. Et les hanches, on ne bouge pas avec les... Quand on bouge avec les hanches, c'est pas parce que les hanches sont aussi le lieu de la sexualité, ça n'a rien à voir. C'est parce que c'est le lieu de la circulation. Si on ne bouge pas avec les hanches... Alors ça, c'était une jeune fille de quartier avec qui je discutais, franco-algérienne, il y a une dizaine d'années. Je lui disais, mais toi, tu vois quoi comme différence entre les danses occidentales, qu'on appelait ça comme ça, et puis les danses, je sais pas comment dansent les Arabes, comment dansent les Africains subsahariens. Elle me disait, c'est que nous, nos danses, elles sont sensuelles. Et c'est-à-dire, pourquoi ? On bouge avec les hanches. Mais je dis, mais voilà, c'est ça. L'invariant, il est là. Et c'est très, très difficile. Essayer de bouger, de danser sur une musique sans bouger les hanches, c'est de l'ordre de l'impossible. Alors, comment est-ce que ça a disparu, ça ? Ben, c'est un long ravage. Alors, je l'explicite un peu dans le livre. C'est-à-dire que je dis que l'important, c'est de pouvoir sortir de l'ego occidental, de penser que nous sommes nés puissants, même quand on est clochard, parce qu'on appartiendrait maintenant à ce qu'on appelle les Blancs, mais qu'il y a eu une histoire. Il y a une histoire qui a fait qu'à un moment donné, nous avons perdu d'autres manières d'être au monde qui nous rapprochent beaucoup plus de tous les peuples à l'oppression desquels nous participons directement ou indirectement avec beaucoup de densité ou peu de densité. Et ces deux événements, il y en a d'autres, hein, on peut remonter jusqu'aux Grecs, etc. Mais c'est notamment la création des enclosures qui invente en fait ce que Malcolm Ferdinand appellerait l'habité coloniale. Voilà, c'est le début d'une relation à la terre complètement utilitariste qui fait que on a plus de, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des cultures qui essayent d'être en lien avec la complexité des exigences de chaque morceau de terre, avec enfin de la terre qu'on habite et des saisons, etc., etc. Et la deuxième, c'est la chasse aux sorcières, en fait, qui est la chasse en fait à toute une série de savoirs à la fois théoriques et pratiques, notamment thérapeutiques, qui était assuré non pas à travers une culture d'État, c'est ce qui va se passer progressivement à travers l'instauration de la médecine. Hein, j'ai rien contre la médecine d'État, mais il n'y a pas eu que ça. Et donc ces deux moments-là, en tout cas, font que on perd un certain lien avec la terre et un certain lien aussi avec tout un nombre de rituels qui assuraient le lien avec la terre. Et je pense que c'est là que disparaissent toute une série de danses beaucoup plus denses que bouger. Pour moi, la plupart des, quand on m'amène voir des danses de pays, je me fâche avec les gens souvent. Enfin, les gens se fâchent contre moi parce que je leur dis, pour moi, c'est pas des danses, c'est du bouger. Quand il n'y a pas la circulation de l'énergie dans le corps, c'est des pas. Quand on fait que des pas, on ne danse pas, on bouge. Voilà. Donc ça a été très mal pris, notamment par les pratiquants de danse folklorique, qui sont très bien parce que ça crée de la socialité, etc. Mais pour moi, c'est pas de la danse.
Alors, à propos de danse, on a un petit son à te faire écouter que tu as déjà évoqué tout à l'heure.
C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le pas les rats et font quoi quoi. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant quoi. À présent, claquez du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des quoi quoi. Allez, mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant, pliez les genoux, redressez-vous. Hey!
Alors, c'est Gigi Lionel et sa fameuse danse des canards qui remue les hanches quand même. Hein. Je le souligne que c'était un live dans l'émission Les Années Bonheur de Patrick Sébastien en 2017 sur France 2. Et ça fait un écho justement à un passage que tu racontes dans ton livre, d'un documentaire télé consacré à deux femmes françaises. Une mère et sa fille qui se sont rendues au Mali et qui, lors d'une fête du village, après qu'une jeune fille malienne a exécuté une danse avec virtuosité, se sont levées pour danser et elles ont fait la danse des canards. Est-ce que tu peux nous... est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti à la vision de ces images et à l'analyse que tu en as tirée, justement, que tu évoques dans ton livre ?
Bah, ce que j'ai ressenti, en fait, c'était d'abord de la... Donc, il y a cette jeune fille qui danse. Hein, et alors, je donne un exemple dans le livre. Mais alors, justement, il y a ce bouger des hanches, en fait, qui permet la circulation des pieds jusqu'à la tête. Mais par exemple, cette jeune fille qui doit avoir 13 ans, elle tient la tête droite. Bon, je ne vais pas me mettre à bouger ici parce que l'auditeur ne me verra pas. Elle tient la tête droite, elle lève les genoux jusqu'au niveau de la tête. Elle reste en souriant comme si elle était en train de rien faire, quoi. Donc elle est vraiment dans une maîtrise et une démonstration de virtuosité très très forte. Et elles invitent donc les deux femmes, la mère et la fille disent « Est-ce que vous pouvez danser faites comme nous ?» Elles leur disent, et je crois qu'elles répondent, dans le documentaire qui était donc sur Striptease, elles répondent « On va faire comme nous. » Et je me suis dit, parce que je suis quelqu'un de positif et de sympathique au début, mais ça ne se voit pas toujours. Et donc je me dis, elles vont présenter une danse de leur village. Je vais peut-être même être jaloux parce que je me disais, tiens, j'aimerais bien découvrir qu'il reste des danses. Et là, je vois ce geste avec les mains, elles pincent les mains et elles bougent un petit peu les épaules, mais alors pas une épaule et puis l'autre, quoi. Donc c'est vraiment comme leur corps bouge comme un bloc, quoi. Et elle raconte qu'elle bouge le popotin, c'est ça, je crois d'ailleurs. Ouais. Je sais pas s'il parle des hanches. C'est la danse des canards qui en s'adonnant. C'est ce coup, le bas des reins. Ah, le bas des reins, oui. Quoi. Ça peut être les hanches.
Tu connais bien, ok, il y a les paroles.
Bah oui, j'ai été.
Ça se retient assez facilement.
Oui, c'est pas si complexe que le Nespresso. Ouais.
C'est ça. Et quand elle bouge les. Je me suis demandé au début que c'était quoi ce qu'elle voulait faire avec leurs doigts. Mais c'était coin-coin. Et donc, quand je vois ça. Je me dis, mais comment est-ce que c'est possible qu'on réponde ça à la danse de cette jeune fille malienne qui est porteuse de tant de virtuosité et en plus de sens aussi, hein, parce que cette danse peut s'y décoder à travers toute une série de sens multiples cachés. Mais rien qu'en parlant de la virtuosité, comment on peut faire la danse des canards face à ça? Ben, j'ai dit, la réponse c'est dans la question en fait. C'est peut-être parce que c'est ça qu'elles ont à proposer. Parce qu'il s'est passé quelque chose ici sur notre continent qui est censé être le plus épanoui de la Terre, le meilleur, etc. Où ce qu'on a à proposer en termes de danse populaire pour se présenter, c'est la danse des canards. On en est là.
Ça, c'est... Et à la fois, enfin, c'est-à-dire que il y a ce truc-là, effectivement, cette déperdition que tu décris très bien, et en même temps, un manque de respect, c'est-à-dire que de croire que la danse des canards c'est équivalent à ce qu'a fait cette jeune fille, c'est je sais pas, c'est un manque de respect ou un manque de compréhension de ce qu'est vraiment techniquement la danse. C'est assez
Ouais, c'est ce que tu dis. Enfin, moi, j'ai compris ça comme ça quand tu dis que le vide culturel qui existe aujourd'hui, il les empêche d'évaluer en fait ce qu'il y a en face. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, bon, elle a fait une danse. Bon, ben, je proposais un truc un peu similaire. Hein, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, cette déperdition des pratiques culturelles populaires, elle nous enlève la capacité d'évaluer, en fait, la valeur technique des gestes, en fait, de danse. En fait, et c'est la même chose quand tu décris il y a un passage sur le djembé.
Ouais.
Et je trouve ça, enfin,
ouais.
Moi, je sais pas pour vous, mais moi, je connais, j'ai toujours eu un copain ou une copine qui avait chez lui ou chez elle un djembé qu'ils avaient acheté soit dans un voyage ou bien dans un marché, hein, parce que ouais. C'est quand même. Et donc.
Et ils en jouent mal.
Mais par contre, ils s'en fichent.
Ouais, c'est pas grave. Non, mais c'est un instrument africain, c'est un instrument sympa.
Et c'est ce que tu dis. Enfin, tu dis qu'on a le droit de faire du djembé quand on sait pas en faire. Hein, c'est pas ça la question. Mais c'est juste que tu parles de cette, entre guillemets, légendaire facilité de l'instrument africain. Et c'est un mythe. Enfin, peux-tu m'expliquer, en fait, c'est quoi le problème avec ce djembé
Alors, avec ce djembé, peut-être pour l'expliquer, je vais revenir un peu sur la danse des canards. C'est parce que tout a été dit, hein, mais c'est juste pour abonder dans votre sens, dans ton sens. Grâce, quand tu dis ce qui est sidérant, c'est qu'elle puisse penser que c'est ça, que l'équivalent de cette danse malienne, c'est la danse des canards. C'est-à-dire que c'est là où je parle de corps analphabète. Leurs cultures populaires ont tellement disparu qu'elles ne savent même pas reconnaître la virtuosité quand elles se trouvent en face de la virtuosité. C'est-à-dire, c'est comme si, je sais pas, à un autre niveau que comprendront plus facilement, par exemple, des occidentaux centrés, tu vas écouter, la Calas te chante un morceau, et tu vas répondre en chantant une chanson de Patrick Sébastien. En disant, bah, moi aussi, je fais de la musique. Enfin, tu vois, voilà, c'est joli ta voix, quoi, mais voilà. En gros, c'est ça. Et par rapport au djembé, c'est pareil aussi. C'est pourquoi cet instrument, tout à coup, est tellement sympathique qu'il est prêt à accepter les odieuses, claques, multiples et, débridées et complètement incohérentes qui sont censées produire un rythme. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce cliché qui existe sur une plage, dans une soirée. Il y avait, il y a pas si longtemps, toujours un jeune, souvent blond, parfois avec des dreads, qui sortait un djembé, qui se mettait à faire toujours le mari de papa, 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 papa. Et il avait l'air complètement en transe et très inspiré, ce qui était étonnant par rapport à la banalité de ce qu'il était en train de sortir rythmiquement. Et pour moi, c'est à peu près du même niveau que si je rencontrais un violoniste gitan. Dieu merci, le violon n'attire pas la même sympathie que ou le même intérêt que le djembé. Mais c'est comme si on croise par exemple un musicien rom qui joue très très bien du violon. Et que je vais prendre son violon et que je vais sortir d'horribles couinements. Et la personne va trouver ça sympathique. Mais avec le djembé, ça devrait aller parce qu'on n'est pas capable de décoter ce qu'il y a de complexe. Le djembé, c'est un instrument duquel quelqu'un qui sait en jouer peut sortir comme 500 ou 600 sons différents.
C'est voilà. Comme si tu avais un piano et tu t'appuies sur deux touches, quoi.
Et en plus, le djembé fait partie des instruments comme le violon qui demandent une pratique pour être acceptable. Un piano, même si tu joues, je sais pas moi, le début de la lettre à Alice, c'est pas, les gens vont pas partir en courant.
Les sons se font tout seul au piano.
Oui, c'est vrai.
C'est ça. Le piano t'aide, le violon il t'aide pas, le djembé non plus.
Ouais, tu peux pas jouer faux. Enfin, voilà, tu peux jouer mal, mais.
Mais du coup, le djembéiste blanc est sympa. Ben, est en train de nous dire que cet instrument-là ne demande pas de travail pour être joué. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il vient d'Afrique? Je pense que c'est lié à ça.
Il ne demande pas d'apprentissage, en fait. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on dit souvent, ce qu'on entend souvent dire sur le fait que les Noirs ou les Africains auraient le rythme dans la peau. Comme si, en fait, ce rythme, même si son apprentissage, en fait, de la danse n'est pas passé par des structures, comme tu disais, grâce à des structures officielles, étatiques, il y a un apprentissage et il y a une technique. Et le fait de dire, en fait, que ces gens ont le rythme dans la peau, c'est une manière de dévaloriser, encore une fois, une connaissance, en fait, une compétence qui fait que effectivement, on va pouvoir se jeter sur une piste de danse sans connaissance, en pensant que c'est bien, ou s'emparer d'un djembé et effectivement jouer n'importe comment en se disant bon bah ça sonne, ça fait du rythme, et donc du coup c'est équivalent. Donc
exactement.
C'est toujours la même logique coloniale. Et est-ce que tu penses que d'une certaine manière cette culture coloniale, en fait, de... Enfin, c'est intéressant parce que du coup, la culture coloniale a dépossédé et a privé plein de personnes dans le monde de biens matériels, en partie aussi de biens culturels.
Oui.
Mais elle a aussi privé, d'après ce qu'on lit dans tes écrits, les Européens, les Occidentaux, de corps, en fait, de rapport à leur corps, en tout cas d'une partie de leur rapport à leur corps.
Mais écoute, merci beaucoup pour cette question parce que c'est vraiment, ça me permet de tout résumer, enfin de dire ce qui est à la base de mon travail. C'est un constat fait quand même de multiples expériences. Donc j'ai vraiment une approche inductive et anthropologique déjà à ce moment-là. C'est-à-dire, je raconte des choses. La danse des canards, la danse du singe, c'est des situations que je convoque. Et en fait, c'est que l'atrocité, la violence coloniale ont dépossédé les peuples extra-occidentaux et les ont impactés très fortement, militairement, socio-économiquement, écologiquement, psychologiquement aussi. Mais par contre, culturellement aussi, mais quand je regarde les Occidentaux, c'est pas les extra-occidentaux qui me semblent les plus impactés culturellement et même intellectuellement. C'est-à-dire, quelque part, je me dis que... je me pose la question. Ce qui ressemble à ce que Césaire décrit quand il parle des peuples spoliés culturellement, c'est les peuples européens de l'Ouest qui ressemblent à ça. Malgré, en dépit de toutes les violences coloniales, alors je ne parle pas de celles du passé, je parle de celles qui sont là aujourd'hui, là, donc la colonialité de la post-colonialité, donc la colonie de l'après, elle est toujours là, la violence coloniale. Et pourtant, les cultures des peuples, c'est-à-dire les multiples savoirs qu'ils ont liés à l'accueil des enfants, au fait de savoir danser, chanter, au fait d'accompagner les morts, d'accompagner les personnes âgées, je pourrais pas tout dire ici, sont encore debout. Voilà.
Mais est-ce que tu crois pas que c'est parce que, justement, quand, en fait, c'est ce que dit aussi Césaire par rapport à la sauvagerie coloniale, à partir du moment où ta culture, en fait, et en tout cas, et ton expansion est basée sur la rationalisation d'une violence extrême, qui peut aller jusqu'à un génocide, t'es obligé de te déposséder d'une partie de ton humanité, parce que si tu restes dans tes émotions et dans ton rapport à ton corps, en fait, tu peux pas accepter ça. Enfin, tu vois, je sais pas si ça va avec.
Si, ça va tout à fait avec, parce que c'est Et de toute façon, la colonisation, elle s'est vraiment basée sur le dénigrement et la disqualification de certains rapports d'intelligence qu'avaient des peuples occidentaux avec la nature environnante, c'est-à-dire le non humain, c'est le non humain, c'est la nature qu'il y avait autour d'eux. Donc, on est obligé ici de disqualifier ça aussi, et de disqualifier et de rendre idiote notre relation à des environnements différents, etc., ou notre relation complexe à la nature, pour accepter qu'on puisse le faire ailleurs. Donc il y a ça, mais après, il y a une chose qui est intéressante, c'est donc Malcolm Ferdinand qui parle de l'habité coloniale. Et ben, l'habité coloniale, avant de s'exporter à l'extérieur, s'est créée ici, à travers les enclosures et la chasse aux sorcières. C'est ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça ne veut pas dire qu'ici aussi, on a été colonisé. Ça veut dire qu'en tout cas, pour moi, pour l'instant, une certaine part du colonialisme moderne s'est créée ici. Il s'est exporté ensuite avec une violence exponentielle. Pour moi, il précède peut-être même le capitalisme, le colonialisme moderne. Et le colonialisme moderne, c'est la destruction, la réduction de la terre à son utilité, la destruction de toutes les cultures qui permettent d'entretenir un rapport subtil au morceau de terre que tu habites et le lien entre les personnes qui y habitent.
Donc voilà. Du coup, c'est aussi une privation. En fait, que les victimes collatérales de cette colonisation, ce sont les personnes qui ont été dépossédées de leur culture traditionnelle sur le sol européen. Quoi.
Ben, tout à fait. Et il y a encore, j'ai été très surpris quand j'ai fait la promotion pour la première étape de Portrait du colonialisme, qui est arrivée presque trop tôt, il y a 10 ans. C'est maintenant, je pense, qui va impacter. Aussi parce qu'il y a un certain personnage qui se présente aux élections et qui est une personne arabe, qui vient du monde arabe et qui est... ultra dans la blanchité et dans le qu'est-ce qui est le dans un super eurocentrisme, le portrait du coloniste prend le alors c'est pas par rapport à lui que je l'ai écrit, hein. Il existait même pas dans mon imagination quand je l'ai conçu, et même quand j'écris encore aujourd'hui, mais en tout cas il prend vraiment l'exact opposé. C'est-à-dire, moi je suis pour un extrême décentrement. Ça veut pas dire que je renie tout de la culture occidentale, mais que, comme dit Norman Ajari, le philosophe afro-français dans La dignité ou la mort, il dit c'est pas facile de bien sûr qu'il y a des bases émancipatrices dans la culture occidentale, mais c'est pas toujours facile de séparer l'ivraie du grain. Voilà. Donc il faut faire le tri. Et la décolonialité ou le décolonialisme nous permet de faire le tri, y compris dans la culture occidentale. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou si j'ai dévié.
Non, tu as plus que répondu même. Merci beaucoup.
Et dans la promotion de cette réédition de ton livre, justement, tu as aussi reçu des signaux de la fachosphère, hein, parce que c'est pas, ouais. Enfin, la réception de cette réédition, elle n'est pas de tout repos. Tu as par exemple fait une interview sur le compte Décolonisons-nous, hein, qu'on salue, et qui ouais, a été signalée et désactivée par l'entreprise Instagram. Qu'est-ce qu'on te reproche en fait dans ce que tu fais ?
Ben, je crois que les quelques attaques que j'ai vues en commentaire, parce que du coup il n'y a pas eu énormément de commentaires, puisqu'au bout d'une heure et demie ça a été désinstallé, donc ça qui était vraiment une attaque contre la promotion en fait. Hein. Alors ce que j'ai vu comme reproche, c'était vraiment on m'avait posé une question, c'est pourquoi est-ce que tu dis que l'inconscient racial s'est logé dans le corps des Européens ? Et j'ai répondu, j'ai dit quand on a. Comment dire ? Quand à un moment donné on se permet par exemple de jouer d'un instrument en l'occurrence africain sans apprendre les bases ou sans connaître ce qu'on n'en connaît pas par exemple sans connaître son degré d'ignorance, eh bien finalement on lui manque de respect et on tient un discours à cet instrument, on lui dit toi instrument qui vient d'Afrique t'es un instrument simple, voilà. Et donc le racisme peut s'exprimer à travers des gestes aussi. Et après la question c'est pourquoi ça s'exprime à travers ces gestes là ben parce que peut-être que nos corps sont devenus analphabètes et ne sont plus capables de produire d'intellectualité, puisque comme je le dis, la danse et le chant pour moi sont des productions strictement intellectuelles. Strictement intellectuel. Et donc ça, je pense que ça passe pas.
C'est toi qui es raciste.
comme je dis dans le portrait du colonialiste, hein, je dis il y a les trois quarts du monde qu'on énonce souvent comme étant toujours en retard, victime de maladies, de guerres, de violences, de patriarcat, de sexisme, etc. Puis il y aurait un quart qui irait beaucoup mieux, on le sait, hein, notamment au niveau du sexisme ici, où il y a une femme qui meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Et je dis, bah, dans ce livre, la tendance va s'inverser. Bon, je vais pas aller parler de ces trois quarts, hein, qui sont l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, etc., en disant, regardez toutes ces guerres, toutes ces souffrances, je vais montrer des forces qu'ils ont encore, qu'il n'y a plus ici. Et on va sans doute crier à l'idéalisation vengeresse de ma part. Mais il n'en est rien. Mais simplement, je suis obligé de ne pas taire ce que j'ai pu observer au fil de ma modeste existence jusque-là.
Avant de terminer, ce que je trouve intéressant justement, c'est que en fait, dans ton discours, tu n'essentialises pas les personnes blanches, mais tu dis bien que en fait, c'est dans leur intérêt et dans notre intérêt à tous de reconnecter avec une culture en fait qui précède cette violence, puisque cette culture violente en fait de la colonisation a imprégné nos imaginaires et nos cultures, oui. Nous aussi indirectement, parce que moi, étant née et n'ayant pas été socialisée en Afrique, j'ai appris aussi à dévaloriser des expressions corporelles et à survaloriser des expressions qui sont considérées comme étant intellectuelles. Donc je pense qu'on est tous victimes, plus ou moins directes, de cette appréciation de la manière dont on existe et de notre rapport au monde. Et toi tu penses qu'il faut le déconstruire, pas qu'il faut détruire en fait les blancs en tant que tels, mais faire en sorte que blanc ne signifie... Non mais parce que je vois très bien comment les gens peuvent analyser ce qu'on a dit depuis le début. Il faut faire en sorte que les blancs puissent jouir, comme d'autres populations, de leur culture populaire en fait.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense d'abord il faut absolument se confronter et rencontrer les cultures extra-occidentales pour comprendre ce que nous avons perdu. C'est pas pour les imiter ou leur ressembler. Et je pense que, effectivement, peut-être des personnes... Alors moi, je dirais moins blanc à ce moment-là, parce que quand on est dans cette dynamique, on commence à ne pas reconnaître la blanchité simplement comme un ensemble de privilèges, mais aussi comme un ensemble de vides. Et donc, des Européens de l'Est qui, ont, en tout cas, n'ont pas été initiés à différentes cultures populaires virtuoses, je pense que notre base, puisque moi j'en fais partie, hein, au moins en partie, de cet ensemble blanc ou eurodescendant européen, c'est de nous retrouver et de réfléchir ensemble comment nous allons chanter ou dire ou parler ou slammer ou rapper ou danser le manque. Mais ce que nous avons à la base, c'est un manque. Je vois qu'on arrive à la fin. Est-ce que je peux ajouter une petite chose ?
Oui.
Vraiment rapidement. C'était juste pour préciser ce que je fais maintenant, que les gens puissent se retrouver. Donc, comme tu as dit, je suis professeur invité à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve et je travaille avec une association qui s'appelle BIPAX, qui produit en fait des plans d'action contre le racisme en Belgique et qui produit aussi des formations sur le racisme structurel, c'est-à-dire pour et le racisme systémique, c'est-à-dire sur le fait que le racisme n'est pas qu'une opinion, c'est une organisation sociale qui a une profondeur historique qui détermine nos imaginaires. Donc je travaille avec cette association BIPAX.
Merci à BIPAX de nous avoir permis de t'avoir aujourd'hui, t'extraire de tes obligations professionnelles le temps de ce podcast.
Alors c'est la fin de ce numéro de Kif Taras avec Jérémy Piola, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont la réédition de Portrait du colonialiste, qui a été réédité, enfin qui est réédité en ce moment aux éditions Libre.
Voilà, et du sudalisme en juin.
Et à venir, donc du sudalisme bientôt. Et donc je suis sûre que tout ce qu'on a dit, ça va vous inspirer plein de choses, donc n'hésitez pas à nous en faire part.
Et merci infiniment pour votre invitation.
Merci.
Merci à toi.
Je kiffe Taras depuis longtemps.
Ah, trop bien.
C'est un vrai plaisir d'écouter ce qui se passe ici.
Écrivez-nous si vous voulez parler à Jérémy, à kifftaras@binge.audio. Contactez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag kifftaras ou le @kifftaras sur Twitter, Instagram, Facebook, et Jérémy Piola aussi à ses propres réseaux.
Kifftaras, c'est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son est aujourd'hui assurée par Elisa Grenet et la réalisation est signée Quentin Bresson. Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition de ce numéro.
On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya.
Merci Grace.
Merci Jérémy.
Merci à vous.